Ben ça, tu vois, Pépé, c'est le sac à nouvelles.
Hello, Bingan, c'est le sac à nouvelles. Adieu.
Le sac à nouvelles, c'est comme qui dirait un sac où il y aurait des nouvelles.
Avec une chevelue, là? Bah.
Le sac à nouvelles, donc, comme tous les jours sur FR3 Radio Normandie, avec Véronique Touillet et Dominique Nuc. Bonjour, Dominique.
Bonjour, bonjour.
Et dans ce sac à nouvelles, Dominique Nuc, on va parler de quelque chose qui a marqué toute une époque et qui a marqué toute une génération d'auditeurs, Radio Normandie, mais ce n'était pas FR3 Radio Normandie.
Non, c'est la vieille Radio Normandie qui a donc arrêté de fonctionner il y a pas mal d'années, hein, avant la guerre, et puis qui était installée là-haut, dans le nord de la Normandie, en Haute-Normandie, à Fécamp, dans le Pays de Caux. C'était un peu Radio Fécamp, Radio Pays de Caux, qui émettait comme ça sur toute la
Normandie. Ça s'est appelé Radio Fécamp, d'ailleurs, pendant un moment.
Ah oui, longtemps, je crois même. Hein. Ça s'appelait Radio Fécamp, puis Radio Normandie. C'était vraiment les pionniers, quoi. Hein.
Alors, on va parler d'eux, et puis on va parler de Radio Normandie grâce à un garçon qui est établi, lui, à Rouen, et qui s'appelle...
À côté de Rouen, Pavie, exactement, qui s'appelle Richard Plumet, qui a été recherché tous les documents qu'on va entendre aujourd'hui.
Il fait propre, lui, Richard, il a les cheveux courts, tout ça. Bien peigné, lui.
Hommage à cette radio qui est notre ancêtre ici en Normandie. On va écouter un disque pour commencer l'émission.
Oui, c'est de Patrick Abrial, le grand-mère.
Allez, vas-y, mémé.
Quand la nature est reverdie, il faut poudrer de blanches fleurs, ainsi qu'au jour des hyménées, tout est joyeux dans les sentiers, sous le soleil des matinées, ils sont jolis, nos vieux. Allô,
ici Radio Normandie. Bonjour mes chers auditeurs, vous allez entendre le programme suivant.
Eh bien oui, le programme de Radio Normandie. Quel est ce monsieur qui dit allô, ici Radio Normandie, vous allez entendre le programme suivant, Dominique Nuc?
C'est monsieur Lemaître qu'on va retrouver un petit peu tout au long de cette émission, qui a bien connu Radio Normandie et qui avait surtout la particularité, enfin il y a travaillé, évidemment il n'a jamais été vraiment speaker de, puisqu'on disait speaker, hein, de Radio Normandie, parce que les speakers de Radio Normandie, bon bah il en reste, il y en a deux, Richard Plumet me disait qu'ils étaient sur la Côte d'Azur, bon ça fait un peu loin pour les retrouver. C'était le frère de Francine Lemaître, et Francine Lemaître c'était celle qu'on appelait Tante Francine, alors là Tante Francine sur Radio Normandie c'était vraiment quelqu'un d'excessivement important, comme ces vieux pommiers étaient aussi quelque chose d'excessivement important, puisque c'était l'indicatif de Radio Normandie, quoi.
Alors les programmes, on peut en parler un petit peu, parce que je les ai là, enfin j'ai des exemples de programmes, si vous voulez. C'était une radio qui commençait à 6h30 le matin, qui se terminait très tard dans la nuit, 0h30, 1h du matin, 2h du matin, donc énormément d'heures d'émission, et dans lesquelles, évidemment, c'était une radio complète qui additionnait des petites séquences, qui faisait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut évoquer en radio. Ça commençait par de la musique militaire, ensuite il y avait une revue de presse, le réveil sportif à la radio, le bulletin sportif, beaucoup de musique, des mélodies, des airs populaires, etc. Il y avait du théâtre radiophonique, il y avait ce qu'ils appelaient, eux, vers 15h45, le programme hilarant. Ça devait être assez amusant. D'ailleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas pu retrouver des bandes de cette ancienne radio Normandie. 19h, je vous cite comme ça, en piquant dans le programme, c'est le programme ça du mercredi 5 juillet 1939, vous voyez, c'est pas nouveau. À 19h, Réventura et ses collégiens. À 20h15, tiens, il faisait de l'opérette aussi, et un extrait, des extraits de l'opérette 19 ans. Et puis ensuite, bon, bah, la soirée se terminait en musique à partir de 22h, orchestre, danse, café, concert, mélodie, danse, etc. Voilà, c'est un exemple de programme, mais ce qu'il y avait de très très important dans cet exemple de programme, c'est les horaires, c'est 6h30 jusqu'à 1h du matin.
Oui, ça émettait très longtemps, et je crois qu'il y a une chose aussi qui est importante de dire, c'est que, bon là, vous avez cité un petit peu le programme de 39, c'est-à-dire le programme de la, je dirais, de l'apothéose presque de cette Radio Normandie, parce que le Radio Normandie, c'est une longue histoire, enfin, c'est une véritable épopée, parce que c'est l'épopée du début de la radio. Enfin, je crois qu'il faut aussi se remettre dans l'ambiance, et il n'y avait pas évidemment tous les moyens techniques qu'il y a maintenant, etc. Ce qui fait que c'était le tout début de tout ça.
C'est ça, Radio Normandie, ça commence en 1926 à peu près.
Oui, hein, c'est au tout début.
1926, on voit bien ce que c'est que la radio en 1926, c'est quelque chose qui en est vraiment assez balbutiement. Et c'est l'initiative d'un homme. Alors on va essayer de ne pas faire de publicité. C'est l'initiative d'un homme qu'on peut citer, lui qui s'appelle Fernand Legrand, et qui est le propriétaire à Fécamp d'une usine de liqueurs.
Oui, c'est hein, ça. Oui.
Qu'on connaît bien dans la région de Fécamp. Et finalement, c'est son initiative privée à lui qui monte le premier Radio Normandie.
C'est ça, c'est Radio Normandie, c'est l'œuvre d'un homme qui s'appelle Fernand Legrand. Et alors, ce qui est étonnant, c'est à cette époque-là, qu'est-ce qui pouvait pousser un jeune homme, enfin en 1925 comme ça, à construire une radio et à monter une radio.
Un rêve de jeune homme ou d'adolescent, hein? Moi je crois, mais c'était un grand bonhomme. Un grand bonhomme. Un homme qui osait.
Et qui était au contact, enfin moi je trouve ça formidable, de Branly.
Ah oui, il était au contact de Branly, c'était un ami de Branly. Je dis, il avait accès au laboratoire de Branly à toute heure du jour et de la nuit, on peut dire.
De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit, en auto ou en autostop, vers les rivages du Midi, National 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette.
Véronique Touillet et Dominique Nux, c'est le sac à nouvelles sur FR3 Radio Normandie jusqu'à 11h35 à peu près. Le témoin qu'a rencontré Richard Plumet, pour nous, c'est monsieur Lancette.
Le maître qui était donc, qui avait une... Je crois que pour bien essayer de bien resituer un petit peu toute cette époque un petit peu, je crois que bon, c'est aussi un problème de son, enfin je crois qu'il y avait un problème de sonorité. Bon, d'abord parce que il y avait sûrement, enfin moi j'ai connu la vieille TSF il y a longtemps, et j'en ai des petites notions. Il y avait aussi une sonorité qui était très différente de maintenant, enfin ça, on se recevait différemment, enfin, on recevait plus mal évidemment, hein, la technique était moins bonne. Il y avait aussi toute une sonorité, bon, mais ça c'était la musique, la variété de l'époque qui faisait une radio très très différente. Et monsieur le maître, lui, ben il était un peu là-dedans. Dans cette radio Normandie, dans cette radio Fécamp, il était un petit peu l'artiste, hein. Mais c'était un amateur, enfin je veux dire, c'était. Et je crois que aussi ça fonctionnait beaucoup comme ça. C'était un amateur, c'était un artiste, un musicien, il s'occupait aussi théâtre. Alors monsieur le maître, donc, qui habite toujours Fécamp, qui a rencontré Richard Plumet, va maintenant nous expliquer un petit peu sa fonction dans cette radio Normandie.
Ben j'étais un peu, si vous voulez, je me suis occupé des émissions artistiques. Radio Normandie, puisque j'étais musicien, moi, hein, je suis titulaire du Grand Orgue de la Ville Fécamp, Et en tant que musicien, j'ai eu l'occasion de m'en occuper. J'ai occupé un peu de théâtre là-bas, Radio Normandie. Mais je n'étais pas, je n'appartenais pas au personnel de Radio Normandie. J'étais en dehors du poste.
Et comment étaient faits les programmes? Est-ce qu'il y avait des gongs? Quel était un petit peu le style des émissions?
C'était des émissions, disons, assez populaires. D'abord, pour les trois quarts, si vous voulez, les deux tiers d'émissions, c'était du disque, de l'information, et pour les soirées, en particulier pour les soirées, alors vous aviez toujours là un gros programme d'environ deux heures et demie, de théâtre, d'orchestre, ainsi de suite, alors on faisait appel à des orchestres.
Alors, monsieur le maître, c'est le frère de Tante Francine?
C'est ça, c'est le frère de Tante Francine. Alors, Tante Francine vit toujours, mais Tante Francine, elle est un peu âgée, forcément, hein, puisque ça a commencé en 1926. C'était l'une des premières speakerines de France. Monsieur le maître est très fier de sa sœur, il va nous en reparler un petit peu de sa sœur. Et Tante Francine, c'était un de ces personnages de cette radio, de cette radio Normandie. Parce que je crois aussi que, là, vous avez peut-être un petit peu d'informations plus que moi là-dessus, mais je crois aussi qu'une radio comme ça, c'était une radio de personnages. Enfin, on créait des personnages, enfin, des grands personnages avec des feuilletons, avec des gens qui parlaient vraiment aux gens comme ça. Non?
Absolument, oui, des gens qu'on retrouvait comme ça. C'était vraiment les débuts de la radio avec toutes sortes de gens qui, un petit peu partout en France, sur des radios qui s'appelaient Radio Toulouse, qui s'appelaient le Poste Parisien, qui s'appelaient Radio Normandie, etc., se sont fait des noms. Et des gens qu'on a retrouvés plus tard, après la guerre, qu'on a retrouvés sur d'autres postes.
Oui, c'était voilà, il y a deux choses qui m'étonnent. C'était donc le côté non de ces gens, c'était des personnages tout à fait étonnants. Et puis aussi, c'était des pionniers. Je crois que c'est aussi, enfin, je crois qu'il faut vraiment insister, parce que je pense que les gens qui n'ont pas du tout connu ces époques-là ont du mal sûrement à se rendre compte, enfin, à quel point ça pouvait être nouveau, techniquement et à tout point de vue comme ça, de parler et d'être entendu. C'était vraiment le début d'une...
Alors c'était la grande aventure. Moi je pense que les gens qui se sont lancés dans la radio à ce moment-là, qui se sont lancés dans le métier de speaker, puisque c'était l'appellation, qui se sont lancés dans les comptes radiophoniques, dans l'information, etc., ne savaient pas du tout où ils allaient. Et devait être pris à ce moment-là, aux alentours de 1929-1930, pour un petit peu des farfelus.
C'est ça, mais ils étaient quand même très très écoutés. Enfin,
mais il y a eu le phénomène, tout de suite, il y a eu ce phénomène d'écoute fabuleux, l'expansion de la radio à ce moment-là, entre les deux guerres. Et ça a fait de ces gens, enfin des meilleurs d'entre eux, ça en a fait des personnages extrêmement connus, extrêmement célèbres, beaucoup plus que ne le sont maintenant des animateurs de radio sur des chaînes nationales.
C'est ça. Alors on peut retrouver l'un de ces... Enfin... pas le personnage, mais le frère d'un de ces personnages, donc c'est Monsieur Lemaître qui nous parle de sa sœur Tante Francine.
Ma sœur a eu un privilège énorme, c'est peut-être celui de première speakerine de France, en 1927. Étant donné qu'elle était d'abord bonne sténo, elle était capable de prendre à 8h moins le quart les nouvelles de Paris, en sténo, et de lire son texte de sténo devant le micro à 8h. Alors elle est devenue un petit peu la directrice des programmes, hein, un petit peu, disons, la directrice du poste en même temps. Fernand Grand lui faisait confiance pour tout. Elle avait beaucoup d'organisation, hein, beaucoup de décisions. Et ma foi, elle a eu tous les succès à ce moment-là qu'on peut avoir, hein, quand on entreprend une carrière comme elle.
We're gonna take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Yes, one of them Creole arrangements we're gonna swing for you. Get a load of this one. We're gonna give you an idea of one of them street parades down there. Look out there, son. Let's go. One.
Thank you. Moi, si je me souviens, c'est le premier studio qui était dans une espèce de petite mansarde, rue Georges Cuvier, là, à l'arrière de la maison de M. Fernand Legrand. Ils ont commencé là, et après, ils se sont établis là, dans la côte, là. Puis après, vers 38, ils sont, je crois, 38 ou 39, ils sont partis au jeu des studios Château de Côte-Bec. Et puis alors, l'émetteur, on recevait forcément avec une galène, avec même je crois qu'il y en avait qui arrivaient à recevoir, au lieu de se servir d'une galène, qui se servait d'une pomme de terre. Que ça détectait.
D'une pomme de terre, oui. Comment ça dit?
Ils détectaient
Ils mettaient un écouteur sur une pomme de terre.
C'était au lieu de prendre une galène, mais il paraît que ça marchait. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'ai entendu des clients me dire le faire. Alors là, ça me dépasse un petit peu. Alors on prenait Normandie avec rien du tout. C'était là, forcément, nous étions sous l'émetteur. Enfin, c'était très, très, très puissant. Nous, c'était presque gênant parce que dès qu'on vendait un poste, on entendait toujours Normandie derrière.
Hein. Et qu'on se mette sur l'émetteur de Paris, on allait quand même regarder Normandie.
Un petit fond, on avait toujours un petit fond. Normandie, il fallait des postes très, très sélectifs pour arriver à. On faisait même des selfs pour arriver à essayer d'empêcher de passer.
Et à l'époque, un poste de radio, est-ce que ça coûtait cher?
Les anciens francs, ça valait 2000, 3000 francs. Ça correspondait à 2 mois de salaire, peut-être, à peu près, 2 ou 3 mois de salaire, à peu près.
Ce monsieur qu'on vient d'entendre, qui est un des témoins de l'ancienne Radio Normandie, il s'appelle monsieur Lemarchand, c'est ça?
C'est ça. Alors lui, il n'était pas du tout, pas comme monsieur Lemaître, puisque monsieur Lemaître participait un petit peu à Radio Normandie, et puis surtout sa sœur. Non, lui, il était Fécampois, il est toujours Fécampois, et donc il écoutait Radio Normandie, il avait des relations un petit peu, parce que lui aussi c'était un pionnier, mais alors de l'autre côté, lui c'était la réception, lui c'était pas l'émission, donc il était quand même un peu au courant. Enfin, ce qui m'a beaucoup étonné là-dedans, enfin il y a plein de choses qui m'ont étonné dans l'histoire de Radio Normandie, mais dans l'histoire de la radio d'une façon générale, c'est ça, c'est que bon, un poste, les postes là coûtaient cher, enfin je veux dire 2-3 mois de salaire, c'est quand même pas rien. Et alors évidemment les gens pour entendre Radio Normandie ou pour entendre toutes les radios utilisaient tous les moyens. Bon, c'était évidemment la belle époque de la galène. Et puis même en fin de pommes de terre, bon, c'est quelque chose qui me paraît très très étonnant. Et évidemment, on peut plus. Enfin, moi, j'arrive pas, si vous voulez, à imaginer qu'on fasse des choses comme ça. Surtout que je suppose que les gens qui avaient, alors ça devait quand même être une qualité d'écoute tout à fait discutable. Je suppose, je suis à peu près certain qu'ils y passaient longtemps, qu'ils écoutaient très longtemps. Enfin, je veux dire, avec une qualité d'écoute quand même mauvaise probablement, quoi.
Et il y a très très longtemps de ça, je peux vous raconter une petite anecdote là, si vous permettez.
Ah, mais bien sûr.
Il y a très longtemps de ça, j'étais vraiment tout petit, j'avais une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, et j'avais vu un berger. C'était, je crois, à la limite de la Normandie et de la Picardie, si vous voulez. Et c'était un berger qui vivait comme ça dans une hutte à berger. Et il avait un poste à galène. C'était un monsieur qui était très très vieux. Il avait conservé un poste à galène. Et pour lui, la radio, c'était le poste à galène. Il n'y avait rien eu d'autre depuis. C'était le poste à galène. Et il m'a montré comment on réglait un poste à galène. Je vous assure que c'était pas une petite affaire. On s'en souvient plus maintenant, mais c'était pas une petite affaire. Et puis il avait des écouteurs parce qu'il n'y avait pas de haut-parleurs sur le poste à galène. Et il se mettait au lit comme ça tous les soirs. Il cherchait une station qu'il aimait écouter. Et puis il l'écoutait pendant 2 ou 3 heures avant de s'endormir. Et ça, je veux dire, c'est la survivance du poste à galène et de cette espèce de passion pour la radio qui a atteint les gens en France, en Europe, à ce moment-là. C'était quelque chose de fabuleux, des voix qui vous parlaient comme ça. C'était l'isolement qui était vaincu, c'était l'information avec un grand I qui arrivait, avec tout ce que ça représente aussi et qu'on a vu plus tard.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ça a dû être... Moi, je comprends mieux maintenant, un petit peu avec tous ces témoignages-là, je comprends mieux un petit peu l'engouement que ça a dû être, quoi. Et on a passé Armstrong parce que aussi, enfin, je crois que les gens n'auraient jamais connu, enfin, je veux dire, cette musique, ces sonorités extérieures, enfin, sans ces moyens de communication qui étaient absolument fabuleux. Et donc, Radio Normandie est une grande épopée, et... Ça, c'est donc parti d'un petit truc amateur, de rien du tout. Et puis, petit à petit, ça a grandi pour devenir une station immense qui était écoutée partout. Enfin, ça, c'est M. Lemaître qui nous en parle.
Alors, Radio Normandie s'est étendue de plus en plus, son notoriété s'est étendue de plus en plus, au point qu'on avait les résultats d'écoute depuis Boston, en Amérique.
Hein, quoi, depuis en Amérique, à Boston, on écoutait la Radio Normandie?
Ah oui, parce qu'il était dans les 206 mètres à ce moment-là. Les gens lui ont une petite longueur d'onde. Et il y avait des gens qui arrivaient à le capter. On a même dit qu'on l'avait capté au Japon. En tout cas, toute l'Angleterre la prenait, la Belgique la prenait, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, une partie de l'Allemagne tout au moins, la Suisse, Luxembourg, bien sûr.
Ma guinguette a fermé ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fume. On voit comme sur un écran les profils inquiétants dont les ombres s'amusent. On dit que pourtant un posto qui frisa les chapeaux pour des vents du virus. Viens donc les rageurs en vengeurs, oui, mais la guinguette a fermé ses volets. Le rythme des pas incertains soudain serait-ce l'heure, et dans l'accordéon plaintif un son demeure, des jurons de voix mal et des râles, la chute de corps lourds, hargneux et sourds. La guinguette a fermé ses volets, même son inquiet de l'accordéon glace. On voit comme sur un écran des couples haletants dont les ombres grimacent. On devine, on choque la fureur des poissons en sueur qui roulent et qui s'enlacent. On voudrait bien voir et savoir, oui, mais la guinguette a fermé son volet. Le calme revient brusquement, vraiment. Et des saint tout ça, tes sanglots convulsifs, des femmes pleurent, là-bas, un groupe traîne vers la scène, quelques pâtés maudits qui sombrent la nuit. La guinguette a ouvert ses volets, les joyeux triolets de l'accordéon fusent. Les lampions éclairent discrets, les couples guilleraient en leur nombre confus. On dit que ce soir le costaud frisa les chapeaux pour des vendus qui ruent. Et forti très gai, est-ce vrai? Oui, mais la guinguette avait mis ses volets.
Alors, la grande chance de Radio Normandie, c'est d'avoir eu tous ces radioclubs un peu partout. Toute cette mosaïque de postes qu'il y avait partout nous donnait une couleur, la couleur locale, si vous voulez, pour Caen, pour Cherbourg, pour Dunkerque, pour Calais, pour Boulogne.
Oui, parce que chaque radioclub envoyait ses émissions.
Et ils avaient leur studio. Leur studio, et sur place, hein, ça passait dans le micro, par relais téléphonique, dans le poste, et voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'à Caen, ils avaient un petit studio,
c'est ça,
avec une ligne téléphonique, et ça revenait à Caen.
Exactement. C'était comme ça que ça se passait.
Et il y avait combien de petits studios comme ça, un petit peu partout?
Ah, ça, et je dis autant comme il y avait le Radio Club. Alors, on a fini, si vous voulez, avec 15 ou 18 Radio Club. Sur toute la région normande.
Ben voilà, une chose qui fait un petit peu rêver, qui nous fait un petit peu rêver, nous, FR3 Radio Normandie. 15 ou 18 studios comme ça un petit peu partout dans la Normandie.
Il y en avait un à Caen, je crois qu'il était rue Aubert à Caen, si mes souvenirs sont exacts.
Et puis il faut peut-être parler de la fin de Radio Normandie, de l'ancien Radio Normandie, tout simplement parce que la guerre est arrivée, que les émetteurs ont été réquisitionnés par les Allemands au service de la propagande. Et qu'ensuite, au moment de la libération, il y a eu un décret portant sur toutes les radios, et les postes privés, comme ça, ont été purement et simplement supprimés, sans indemnité d'ailleurs.
C'est ça, ça a changé, ça s'est arrêté, enfin, monsieur le maître le disait, il a dit, bon, puis le 3 novembre 39, c'était fini, quoi. L'aventure était finie, parce que, enfin, moi je considère ça comme une, vraiment, enfin, c'est quelque chose que je découvre complètement, et c'est vraiment, je prends ça comme une aventure, quoi, une aventure d'un groupe de personnes, enfin.
Bah, la preuve, c'est que 40 ans après, quand on installe une radio comme FR3 Radio Normandie en Normandie, eh bien on trouve beaucoup de gens qui nous parlent de l'ancien Radio Normandie, et ça c'est fabuleux.
C'est ça, oui, ça a vraiment laissé une trace et un souvenir tout à fait extraordinaire dans, surtout en Haute-Normandie, il faut bien dire les choses, mais même en Basse-Normandie, enfin partout.
Merci Dominique Nugue, merci Véronique Touillet, merci à Richard Plumet aussi pour cette évocation de l'ancien Radio Normandie dans le sac à nouvelles aujourd'hui. On se retrouve demain pour un sac à nouvelles un petit peu particulier à Balleroy.
Ah oui, on change de pays là.